Extraterrestre, le premier signe d'une vie intelligente. L'auteur A.V. Loeb écrit d'ailleurs « Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité ». C'est publié aux éditions de Loeb et je vous le recommande parce que d'abord, c'est intéressant de lire un ouvrage scientifique mais vulgarisé. Et c'est pas écrit par n'importe qui. L'auteur est directeur du département d'astronomie de l'Université de Harvard. Son programme est consacré aux trous noirs. Il est aussi directeur de l'Institut de théorie et de calcul du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian. Il préside le Breakthrough Starshot Initiative. Bref, est-ce que je vous ai convaincu que c'est quand même quelqu'un qui est une sommité en matière d'astronomie? Et toute sa carrière scientifique, finalement, il l'a voué à étudier l'univers avec curiosité et rigueur. Et dans cet ouvrage, il pose la fameuse question qui me fascine. Et on aimerait tellement une réponse claire. On cherche les signes pour répondre à cette question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Je voulais en discuter avec le directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic et de l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal, René Doyon. Bonjour, Monsieur Doyon.
Bonjour, Madame Richard.
Je sais que vous suivez les travaux de ce chercheur, A.V. Loeb. Tout ça, c'est parti, en fait, son hypothèse, parce que c'est vraiment sur la méthode scientifique que tout ça est basé. Son hypothèse, c'est à la suite de la découverte d'une espèce de forme qui avait l'air d'un astéroïde, finalement, qui avait l'air de venir de l'extérieur de notre système solaire, qu'on a appelé Oumuamua, qui veut dire messager en hawaïen, apparemment. Et selon A.V. Loeb, ce serait la preuve d'une existence d'un corps céleste extraterrestre.
Ben voilà. Et alors, rappelons les faits scientifiques. Effectivement, il y a eu un objet de nature extraterrestre qui est rentré dans le système solaire. C'est la première fois qu'on a pu découvrir un tel objet. Donc, la première fois qu'on voit, on est sûr que l'objet ne provient pas de notre système solaire. Juste de par son orbite et sa vitesse, on savait que cet objet-là ne venait de l'extérieur du système solaire. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Donc l'hypothèse la plus naturelle, la plus probable que la communauté, que les gens dans la communauté scientifique vont prendre, c'est que c'est un astéroïde.
Un
astéroïde. On connaît ces objets-là, il y en a plein dans notre système solaire, on sait qu'il y en a aussi à l'extérieur du système solaire, et donc c'est l'hypothèse la plus naturelle. Mais bien sûr, on ne peut pas exclure l'hypothèse plus, je ne dirais pas farfelue, mais quand même intéressante, que c'est un objet de fabrication extraterrestre. D'autant plus à cause de sa forme. Lorsque l'objet s'est approché du système solaire, on a pu mesurer sa brillance et on a constaté que la brillance variait dans le temps. Okay, donc, c'est un peu étonnant. On a des exemples d'objets qui varient comme ça dans le temps, dans notre système solaire, mais l'analyse des données qu'on a faite, qu'on a conclu que la forme de l'objet a une forme un peu comme un grand cigare. Okay? Donc, et c'est assez particulier. Mais voilà, et donc, l'objet est rentré dans le système solaire, il est parti, on ne peut plus l'observer parce qu'il est en train de sortir du système solaire, il est trop loin. Mais oui, la question se pose, est-ce que cet objet-là pourrait être un objet d'origine extraterrestre, qui est l'hypothèse, mais je précise que ça ne constitue pas une preuve.
Non, tout à fait. On cherche les preuves, en fait, c'est ça.
Voilà, exactement.
On cherche les preuves. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, René Doyon, de cette grande question-là? Vous êtes bien placé, vous, à l'Observatoire du Mont Mégantic, vous avez toujours les yeux rivés sur l'espace, ou à peu près. Vos travaux aussi vous amènent à tourner autour de cette question, quand même, qui est assez centrale pour l'humain. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de la poser, d'où on vient. Là. On dit souvent
absolument.
Que savoir d'où on vient, ça nous aide à aller quelque part aussi. Donc, vous en pensez quoi de toute cette question sur l'existence même de la vie extraterrestre?
Bien, c'est-à-dire que c'est une question scientifique qui est tout à fait crédible, là, sur laquelle on travaille ardemment, par exemple, à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. C'est notre mission, justement, de trouver de la vie à l'extérieur du système solaire. Mais une vie, on réalise nos efforts sur trouver de la vie, du moins une vie primitive, des bactéries, des bactéries qui ont une influence sur l'atmosphère des planètes qu'on peut détecter à distance. On a maintenant la technologie, on l'aura de plus en plus, notamment avec le lancement du télescope spatial James Webb à l'automne prochain. On sera capable de pouvoir sonder l'atmosphère des autres planètes et de savoir y a-t-il de l'oxygène, y a-t-il de l'eau dans l'atmosphère. Donc on peut à distance détecter la présence de vie. Mais là, on parle de vie, là, une vie primitive qui n'est pas nécessairement des petits bonhommes verts, là, qui est d'une civilisation extraterrestre. Mais l'autre volet, qui est celui de détecter de la vie intelligente, ça, évidemment, c'est un autre sujet qui est très intéressant et qui est aussi très sérieux. Donc, ça fait déjà plus de 50 ans que on essaie de chercher des signaux radio de civilisation extraterrestre. On écoute, on essaie de voir un signal qui serait pas d'origine naturelle. Et jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est qu'on n'a pas encore trouvé d'évidence qu'il y aurait des civilisations extraterrestres. Alors, M. Loeb fait l'hypothèse que, ben, ce n'est pas une roche. C'est un objet qui a été fabriqué par une civilisation extraterrestre qui aurait été envoyé chez nous pour toutes sortes de raisons. On ne sait pas pourquoi il l'aurait fait. Il y a plusieurs articles scientifiques qui sont tout à fait crédibles, qui montrent que ce serait possible par une solution extraterrestre d'envoyer un objet comme ça chez nous.
Moi, ce que je trouve intéressant... Ouais. Oui, allez-y, René.
Oui. Ben, je précise qu'il n'y a pas de preuve irréfutable que c'est vraiment... Ça ne constitue qu'une hypothèse.
Ouais. Ce que je trouve très intéressant dans son hypothèse, justement, c'est que ça nous force aussi à une espèce de devoir d'humilité. Et par rapport à toute la méthode scientifique, ça nous amène à faire preuve, oui, de rigueur, il faut, mais aussi à ouvrir ses horizons. Puis c'est sûr qu'il est très décrié comme scientifique. Il est quand même directeur d'un grand département à Harvard en astronomie. Donc, c'est quand même quelqu'un de très, très important qui sait de quoi il parle. Donc, je trouve ça intéressant quand il dit « On est assez arrogants, nous, humains, de penser qu'on peut être les seuls. » Et c'est vrai que c'est une posture assez... je me prends pas pour un autre de penser qu'on est tout seul puis les plus intelligents.
Mais là-dessus, je ne suis pas d'accord avec son affirmation.
Ah non, vous ne trouvez pas, non?
Non, parce que je dirais que c'est plutôt le contraire. Dans la communauté scientifique, la vaste majorité des gens vont admettre que, oui, comme moi d'ailleurs, qu'il y a sûrement de la vie à l'extérieur du système solaire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais il n'y a personne qui a encore d'évidence qu'il y a effectivement de la vie. Et là, bien sûr, on peut étendre la question. Pour ce qui est de la vie primitive, je pense que ce serait effectivement très arrogant de s'imaginer que ce qui s'est passé sur Terre ne se passe pas ailleurs, lorsqu'on sait qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers, puis chaque galaxie en contient 300 milliards d'étoiles. Et on sait maintenant, et ça c'est un autre fait scientifique bien, bien solide, que la vaste majorité des étoiles contient des systèmes planétaires et une très grande fraction dans des conditions favorables pour que la vie puisse s'y développer. Donc, ni trop loin, ni trop proche de son étoile pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface, etc. Donc, oui, ce serait très arrogant de dire « nous sommes seuls dans l'univers ». Le problème, c'est de trouver une évidence, de faire la preuve de ça. Et c'est un programme scientifique qui est en marche depuis longtemps et qui va durer des décennies encore. Mais je dirais qu'on n'est pas très loin. Je pense qu'on est peut-être à quelques décennies d'avoir des preuves d'existence de vie extraterrestre. Bon, on l'a vu hier avec la sonde Persévérance qui est allée vers Mars. Peut-être qu'on va trouver des présences de vie passées sur Mars ou même présentes d'ici quelques décennies. On est vraiment pas loin.
Ouais, c'est ça. C'est fascinant. On va en parler d'ailleurs de ce robot Persévérance qui porte un joli nom. Et là, on fait appel finalement à une nouvelle approche qui s'appelle. Je lis beaucoup là-dessus. Je trouve ça fascinant et super intéressant. C'est l'astroarchéologie finalement. C'est qu'on cherche des reliques qui pourraient nous prouver qu'effectivement il y a déjà eu des traces de vie intelligente hors terrestre. Là. Et c'est ça qui est fascinant. Vous me permettez, on va aller à la pause. René Doyon est avec nous, directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic. On est super content de pouvoir lui parler. Vous savez qu'on est bien placé nous au lac Mégantic, au Mont-Mégantic pardon, pour observer le ciel. Il y a des télescopes vraiment puissant, hein, parmi les plus puissants au monde. D'ailleurs, René, vous pourrez nous en dire quelques mots après la pause. J'en profite pour demander à nos auditeurs, êtes-vous aussi fasciné que moi par tout ça, toute cette question de l'existence d'autres vies intelligentes dans l'univers? Croyez-vous qu'on soit les seuls? Et est-ce que ce qui se passe aussi avec cette fameuse sonde sur Mars, vous pensez qu'on va s'en rapprocher de cette réponse, à savoir, il y en a peut-être d'autres aussi intelligents, peut-être même plus, et surtout, est-ce qu'on est prêt à avoir la réponse? Ça, c'est l'autre chose. Êtes-vous prêt à avoir cette réponse-là? Souvent, ça fait peur aux gens. Je pense qu'il faut être dans l'ouverture. 514-790-9850 1-866-790-9850. C'est pas mal mon film de science-fiction, le préféré, Rencontre du troisième type et non pas Mars Attaque. Évidemment, cette représentation qu'on a des extraterrestres, ça nous vient beaucoup des films de science-fiction qui nous les présentent souvent comme des êtres qui sont pas très gentils envers les terriens. Mais je pense qu'il faut, je vous disais, être dans l'ouverture et dans la bienveillance. Ce film-là, Rencontre du troisième type, est fabuleux parce qu'on voit qu'il y a un véritable échange. Évidemment, ça reste un film et René Doyon pourrait nous le dire. Probablement qu'on est beaucoup plus à l'étape de trouver des vies intelligentes qui seraient, par exemple, des bactéries ou d'autres choses du genre, plutôt que des petits bonhommes à pattes, là, hein?
Ben, qui sait, hein? En fait, je veux pas me faire arrogant pour savoir quel type de vie on va trouver d'abord, mais si j'avais à parier, je pense qu'on va trouver des bactéries avant de trouver des petits bonhommes verts.
Voilà, effectivement. René est avec nous. Bonjour, René.
Bonjour. Bonjour, Mme Maréchal.
Oui, là, j'ai deux René, là. René, oui, l'auditeur, oui. Est-ce que vous croyez... Oui, vous pensez qu'on est, on n'est pas tout seul, vous pensez, René?
Ben, écoutez, faut pas tomber dans les clichés. Là, vous avez touché une corde sensible. Moi, je suis purement un amateur d'astronomie. Ouais. Et puis, je m'intéresse depuis quelques années à ce genre de phénomène-là. Et puis, il faut vraiment, votre autre René va être d'accord avec nous, avec moi, c'est les équations de Drake, le paradoxe de Fermi, puis le grand filtre. Ces trois thèmes-là qui vont vraiment ouvrir l'esprit des gens s'ils veulent aller plus loin dans la connaissance. Est-ce qu'il y a des êtres ou des bactéries plus loin dans l'univers? Il y a quelqu'un sur Internet, sur YouTube, qui s'appelle AstronoGeek, qui a fait des capsules là-dessus, puis il est très bien résumé, vulgarisé. Il faut seulement faire des petites recherches comme quelle est la probabilité de l'existence des extraterrestres sur YouTube, quelle est la probabilité des extraterrestres, AstronoGeek. Vous allez tomber sur quatre capsules. Il faut absolument regarder ça. Puis inquiétez-vous pas, ça tombe pas dans le cliché qu'il y a des hommes verts.
Ouais.
Moi, je crois pas qu'ils sont venus ici, je crois pas, mais oui, je crois qu'il y a de la vie parce que proportionnellement, c'est possible. Sur Terre, on a réussi à reproduire les acides aminés nécessaires avec des expériences en quelques heures, électricité, gaz carbonique, etc., etc. Là, après ça, on tombe dans les bactéries simples, les prokaryotes et eucaryotes.
J'ai envie de vous arrêter là parce que là, si on parle dans la science, moi, je trouve ça fascinant, René, ce que vous racontez. Puis j'aurais envie de dire aux auditeurs, si ça vous intéresse, l'équation de Drake, effectivement, pour tous ceux là, qui sont fans du sujet, ça remonte à Frank Drake en 61. C'était une façon d'évaluer le nombre de civilisations avec lesquelles on pouvait communiquer. Bon, ça peut partir les astronomes amateurs sur... Hein, n'est-ce pas, René Doyon? Il y a tellement de sujets, c'est tellement vaste, toute cette étude-là.
Oui, c'est très, très riche. Et votre auditeur, votre autre René est très...
au courant. Mais oui, tout à fait. On a Stéphane qui aurait peut-être une question sur l'observatoire, d'ailleurs, du Mont Mégantic et les télescopes, Stéphane?
Oui, une petite question pour M. Doyon. Vu que vous êtes capable de dire que vous voyez des galaxies, puis des lunes, puis des soleils à l'autre bout du monde, êtes-vous capable de voir comme il faut sur la Lune? Comme les pas que les gars ont marché sur la Lune? Ou le drapeau américain?
C'est une très bonne question. C'est très difficile de faire ça pour... on ne peut pas voir les pas sur la Lune, là. Mais évidemment, on peut voir des détails très, très fins, là. Ça prend des grands télescopes qu'on n'a pas encore. Mais pour voir ce petit détail-là, si on n'a pas la puissance encore pour le faire, là.
Mais les télescopes du Mont Mégantic sont assez quand même impressionnants, hein, je pense, René Doyon.
Ben oui, ben écoutez, juste pour mettre ça en perspective, le télescope du Mont Mégantic a un diamètre de 1,6 mètre, là. Mais il faut comprendre que maintenant, on a des télescopes de 8 mètres, 10 mètres. On va en lancer un dans l'espace à l'automne prochain de 6,5 mètres, un projet de 10 milliards de dollars. On a dans les planches à dessin la construction de télescopes de 30, 40 mètres. Donc, maintenant, le télescope du Mont Mégantic est d'une taille modeste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. On l'utilise d'ailleurs justement dans la recherche d'exoplanètes. C'est une infrastructure qui travaille en collaboration avec d'autres missions spatiales. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait en lien avec l'étude des exoplanètes à l'Observatoire du Mont Mégantic.
Ouais. Puis d'ailleurs, c'est fascinant parce que il faut aussi le dire, là, le parc national du Mont Mégantic, c'est aussi la première réserve internationale de ciel étoilé. Je trouve toujours que c'est fascinant, ça.
Je suis content que vous le souligniez, tout à fait. Oui, c'est une alliance qu'on a fait avec le parc. L'UTT de cette de ce réveil là que la pollution lumineuse est en train de détruire notre site. Ouais. Donc, c'est vraiment la population qui s'est mobilisée pour revoir la façon dont on éclaire. Hein. En fait, c'est inutile d'éclairer vers le ciel. Hein. C'est éclairer vers le bas. Donc, en ayant des éclairages appropriés, on a pu réduire la pollution lumineuse du niveau qu'il était lorsque le télescope a été construit en 1978. Et aujourd'hui, on jouit d'un site qui est absolument magnifique. Juste pour la petite histoire, lorsqu'on a construit l'Observatoire du Mont Mégantic dans les années 70, on planifiait deux sites. Alors, soit le Mont Mégantic ou bien le Mont Tremblant. Alors, vous voyez qu'on a bien choisi notre site.
Effectivement.
Si on était sur le Mont-Tremblant, on pourrait plus faire de science.
Tellement. René Doyon, on va vous revoir à l'émission parce que vous êtes fascinant. Il y a tellement de choses à dire sur l'espace. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. René Doyon est directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic. Ça s'appelle Extraterrestre, publié aux Éditions de l'Homme. Allez lire ça, là. Fascinant. Merci à toute l'équipe, François, Marie-Josée, Isabelle. À lundi, tout le monde.